Chapitre 48. Samedi 19 décembre, l'après-midi. Anya entre dans le bureau de Yonalina et lui remet sans un mot un dossier et un verre de vin chaud. Il lève les yeux sur son visage rond et rose. Elle ne lui sourit pas comme elle le fait habituellement. « Ils viennent d'identifier le garçon », explique-t-elle sèchement en désignant le dossier. « Merci », dit Yona. « Il y a deux choses qu'il déteste », se dit-il en observant le dossier en carton brun. « La première, c'est d'être obligé de laisser tomber une affaire, de devoir abandonner des corps non identifiés, des viols, des vols à main armée et des meurtres non résolus. La deuxième chose qu'il déteste, bien que ce soit d'une façon tout autre, c'est que les affaires non résolues trouvent leur solution, car les vieux mystères s'éclairent rarement comme on le souhaiterait. » Yonalina ouvre le dossier et lit. Il y est écrit que le corps de l'enfant retrouvé dans le jardin de Lydia Evers est celui d'un garçon. Il avait 5 ans quand on lui a ôté la vie. Une fracture au sommet de la tête causée par un objet contondant semble être à l'origine du décès. Par ailleurs, on a retrouvé sur le squelette un certain nombre de blessures plus ou moins cicatrisées, indiquant des sévices corporels graves et répétés. Le dos et les bras semblent avoir subi le plus gros des violences, exercées avec un objet lourd. Plusieurs symptômes de carence indiquent par ailleurs que l'enfant était privé de nourriture. Yona regarde par la fenêtre un court moment. Il n'arrive pas à s'y faire, et il s'est toujours dit que, le jour où ce serait le cas, il quitterait son poste d'inspecteur. Il passe la main dans ses cheveux épais, déglutit avec difficulté, puis retourne à sa lecture. L'enfant a été identifié. Il s'appelait Johan Samuelson et sa disparition fut déclarée il y a 13 ans. La mère, Isabella Samuelson, était, selon ses propres dires, dans le jardin avec son fils quand le téléphone avait sonné dans la maison. Elle n'avait pas emmené le garçon à l'intérieur pour répondre. Et, durant les 20 ou 30 secondes durant lesquelles elle avait décroché le combiné, écouté, constaté qu'il n'y avait personne et raccroché, l'enfant avait disparu. Johan était âgé de 2 ans lors de sa disparition. Il avait 5 ans à sa mort. Son cadavre était ensuite resté 10 ans dans le jardin de Lydia Evers. L'odeur du vin chaud qui émane de sa tasse lui paraît soudain étouffante. Yona se lève et entr'ouvre la fenêtre. Il jette un regard sur la cour intérieure du commissariat, les rameaux hérissés près de la maison d'arrêt, le bitume luisant et humide. Lydia a gardé l'enfant avec elle pendant 3 ans, pense-t-il. 3 ans de dissimulation, 3 ans d'abus, de famine et de terreur. « Ça va, Yona ?» demande Anya en passant la tête par la porte. « Je vais aller parler aux parents, » dit-il. « Niklasson peut sûrement le faire, » dit Anya. « Non. »
« De guerre ?»«
C'est mon affaire, » dit Yona. « J'y vais. »«
Je comprends. »«
Est-ce que tu peux vérifier quelques adresses pour moi pendant ce temps ?»«
Bien sûr, »
dit-elle en souriant.
« Pas de problème. »«
Il s'agit de Lydia Evers. J'aurais aimé savoir où elle a résidé ces 13 dernières années. »«
Lydia Evers, » répète-t-elle.
Il enfile son bonnet en fourrure, son manteau d'hiver, et part le cœur lourd annoncer à Isabella et Joachim Samuelson que leur fils Johan vient malheureusement d'être retrouvé. Anya l'appelle tandis qu'il passe un des péages périphériques de la ville.
« Tu as fait vite !»
dit-il en s'efforçant de prendre une voix joyeuse mais sans succès.
« Je te rappelle que c'est mon travail, mon chou !»
gazouille Anya. Il l'entend prendre une profonde inspiration. Une nuée d'oiseaux noirs décolle d'un champ enneigé. Du coin de l'œil, il ressemble à de lourdes gouttes. Il repense aux 2 photos de Johan qui avaient été portées au dossier. Une furieuse envie de jurer le submerge. La première montre un petit garçon en uniforme de police, ébouriffé, qui rit à gorge déployée. La deuxième, des morceaux d'os alignés sur une table métallique et soigneusement étiquetés.
« Quelle putain de saloperie » grommelle-t-il.
« Dis donc. »
« Pardon, Anya. » C'était une autre voiture.
Bon, mais tu sais que je n'aime pas les gros mots.
Oui, pardon, dit-il d'une voix lasse, sans avoir le cœur à plaisanter.
Anya semble le comprendre et poursuit sur un ton parfaitement neutre.
La maison où la dépouille de Johan Samuelson a été retrouvée est la maison d'enfance de Lydia Evers. Elle a grandi là, et ça a toujours été sa seule adresse.
Elle n'a pas de famille? Des parents, des frères et sœurs?
Attends, je le découvre en même temps. On dirait que non. Père inconnu et mère décédée. Il semblerait même qu'elle n'ait pas eu la garde de Lydia très longtemps.
Pas de frères et sœurs, répète Yuna.
Non,
dit Anya, et il l'entend feuilleter des papiers.
En fait, si,
s'écrie-t-elle.
Elle avait un petit frère, mais il semble être mort jeune.
À l'époque, Lydia avait... Elle avait quel âge?
10 ans.
Elle a toujours habité cette maison?
Non, je n'ai pas dit ça,
objecte Anya.
Elle a aussi habité à un autre endroit, plusieurs fois même.
Où ça? S'impatiente Yuna.
Ulrocker.
L'asile psychiatrique?
On dit clinique psychiatrique, mais oui.
Au même moment, Yuna tourne dans la petite rue où les parents de Johan Samuelson habitent encore. Ils voient tout de suite leur maison, une bâtisse du XVIIIe siècle, rouge de Falin, avec un toit en selle. Une cabane de jeu délabrée se dresse dans le jardin, et derrière le terrain vallonné des Samuelson, on devine l'eau noire et lourde. Yuna se passe les mains sur le visage avant de sortir de la voiture. Il déteste faire ça. Des galets disposés avec soin bordent l'allée de gravillons ratissés. Il avance jusqu'à la porte, sonne, attend, lève la main et sonne de nouveau. Puis il entend quelqu'un crier derrière la porte
« J'arrive !»
La serrure cliquette et une jeune adolescente ouvre la porte. Elle a du noir autour des yeux et les cheveux teints en violet. « Salut !» dit-elle d'un air interrogateur en fixant Yuna. « Je m'appelle Yuna Lina, » dit-il. « Je suis de la Rikskrim. Est-ce que ta maman ou ton papa sont à la maison ?» La fille hoche la tête et se retourne pour appeler. Mais une femme d'âge moyen se trouve déjà au fond du vestibule et fixe Yuna.
« Amanda, » dit-elle d'une voix apeurée. « Demande-lui ce qu'il veut. »
Yuna secoue la tête.
« Je préférerais ne pas rester sur le perron pour dire ce que j'ai à vous dire. Est-ce que je peux entrer ?»«
Oui, »
murmure la mère. Yuna franchit le seuil et ferme la porte derrière lui. Il regarde la fille dont la lèvre inférieure s'est mise à trembler. Puis, il regarde la mère, Isabella Samuelson. Ses mains sont serrées contre sa poitrine, son visage est livide. Yuna prend une profonde inspiration.
Je suis sincèrement navré. Nous avons retrouvé le corps de Johan.
La mère serre le poing contre sa bouche et émet un faible gémissement. Elle prend appui contre le mur, mais glisse et s'effondre.
Papa !
Crie Amanda.
Papa !
Un homme dévale l'escalier. En apercevant sa femme en pleurs par terre, il ralentit. Ses lèvres et son visage semblent perdre toute couleur. Il regarde sa femme, sa fille, puis Yuna.
C'est Johan, dit-il simplement. Nous avons retrouvé son corps, dit Yuna d'une voix sombre.
Il s'installe dans le salon. La fille enlace sa mère qui pleure, inconsolable. Le père semble rester étrangement calme. Yuna a déjà vu ça. Ces hommes, ces femmes parfois, même si c'est moins courant, qui semblent ne pas réagir, qui continuent de parler, de poser des questions et de s'informer sur les détails d'une voix singulière, vide. Yuna sait que ce n'est pas de l'indifférence, c'est un combat, une tentative désespérée de repousser l'arrivée de la douleur.
« Comment l'avez-vous retrouvé ?»
chuchote la mère entre deux sanglots.
« Où est-ce que vous l'avez retrouvé ?»
Nous étions à la recherche d'un autre enfant chez une personne que l'on soupçonnait d'enlèvement, dit Yuna. Notre chien l'a flairé. Il a signalé l'endroit dans le jardin. Johan est mort depuis 10 ans, selon le légiste.
Joachim Samuelson lève la tête.
10 ans?
Il secoue la tête.
Mais ça fait 13 ans que Johan a disparu.
Yuna hoche la tête. Il se sent exténué.
Nous avons des raisons de croire que la personne qui a enlevé votre enfant l'a retenu prisonnier pendant 3 ans.
Il regarde ses genoux, puis lève de nouveau les yeux en s'efforçant de paraître calme.
Johan a été retenu prisonnier pendant 3 ans, poursuit-il, avant que l'auteur du crime lui ôte la vie. Il avait 5 ans quand il est mort.
Le visage du père se décompose. L'effort surhumain qu'il faisait pour rester calme se brise en une multitude de fragments comme une fine plaque de verre. C'est un spectacle affreux. Il fixe Yona. Son visage se contracte et les larmes commencent à couler le long de ses joues dans sa bouche ouverte. D'atroces sanglots déchirent le silence. Yona regarde la maison, les photos encadrées sur le mur. Il reconnaît la photo du dossier, celle du petit Johan à 2 ans, en uniforme de police. Il voit une photo de la communion de la fille, une photo des parents, souriant, un nouveau-né dans les bras. Il déglutit et attend. Il déteste vraiment ça, mais ce n'est pas fini.
« Il y a une autre chose qu'il faut que je sache, » dit-il.
Il patiente un instant pour leur permettre de se ressaisir et d'assimiler ce qu'il a à dire.
« Il faut que je vous demande si vous avez déjà entendu parler d'une femme du nom de Lydia Evers. »
La mère secoue la tête, confuse. Le père cligne des yeux plusieurs fois, puis s'empresse de dire « Non, jamais. » Amanda chuchote
« C'est elle ? C'est elle qui a enlevé mon grand frère ?»
Yona la regarde avec des yeux graves.
« Nous le pensons, » répond-il.
Quand il se lève, ses paumes sont moites et la transpiration coule le long de ses côtes.
« Je suis navré, » répète-t-il. « Je suis sincèrement, sincèrement navré. »
Il pose sa carte de visite sur la table devant eux et laisse les numéros d'un psychologue et d'une cellule de soutien.
« Appelez-moi si vous pensez à quelque chose ou si vous avez simplement envie de parler. »
Il est sur le point de partir quand, du coin de l'œil, il voit le père se lever.
« Attendez, il faut que je sache. Vous l'avez arrêté? Vous l'avez appréhendé ?»
Yona serre les dents, se retourne et écarte les bras en un geste désolé.
« Non, nous ne l'avons pas encore appréhendé. Mais nous sommes à ses trousses. Nous l'aurons bientôt. Je l'aurai bientôt, je le sais. »
Yona compose le numéro d'Anya dès qu'il arrive dans la voiture. Elle répond à la première sonnerie.
« Ça s'est bien passé ?»
demande-t-elle.
« Ça ne se passe jamais bien, » répond Yona d'une voix résignée.
Un petit silence s'installe dans le combiné.
« Tu voulais quelque chose en particulier ?»
demande Anya d'une voix hésitante.
« Oui. »«
Tu sais qu'on est samedi. »
« L'homme ment, » poursuit Yona. « Il connaît Lydia. » Il m'a dit qu'il n'avait jamais entendu parler d'elle, mais il mentait.
Comment sais-tu qu'il mentait ?
Ses yeux. Ses yeux quand je lui ai posé la question. Je sais que j'ai raison.
Je te crois. Tu as toujours raison, pas vrai ?
Oui.
Est-ce que tu voulais dire autre chose à part que tu as raison ?
Oui. Que je me rends à Uller au cœur.
Maintenant ? Tu sais que c'est le repas de Noël ce soir.
C'est ce soir ?
Yona... C'est la fête du personnel, le repas de Noël à Skansen. Ne me dis pas que tu l'as oublié.
Je suis vraiment obligé de venir ?
Oui,
répond Anya d'une voix ferme.
Et tu seras assis à côté de moi, pas vrai ?
Uniquement si tu ne t'emportes pas au bout de quelques verres.
Tu t'en sortiras.
Si tu veux bien être un ange et téléphoner à Ulrocker pour trouver quelqu'un avec qui je puisse discuter de Lydia, tu pourras faire de moi presque tout ce que tu veux,
dit Yona.
Mon Dieu, alors j'appelle, j'appelle !
Crie joyeusement Anya et elle raccroche.